Chapitre 14. Laetitia Chapelier s'était arrêtée au milieu de l'allée.
Un pacemaker? Il serait mort à cause de ça?
Charcot acquiesça.
Oui, l'appareil a complètement grillé. D'après Chénet, il est devenu brûlant au point de faire fondre la pile au lithium qui l'alimentait, et tous les tissus alentour. Je ne vous explique pas le carnage dans l'organisme de la victime. Ça a créé des hémorragies, le cœur s'est subitement arrêté de battre.
Laetitia baissa les yeux vers son portable, consulta le trajet, et ils reprirent leur marche.
Ça n'arrive jamais, ce genre de truc.
Non, c'est la première fois que le légiste rencontre ce cas-là. Ces appareils sont d'ordinaire fiables à 100%, et heureusement d'ailleurs. Mais notre victime a attendu 17h02 pour nous remettre le courrier. Cette heure était aussi inscrite dans la lettre, sur le tatouage du cadavre des bois. Et c'est exactement à cette heure-là que le pacemaker a grillé. Le dysfonctionnement a été provoqué. Il n'y a pas d'autre explication possible.
Laetitia pointa les ténèbres. Encore une centaine de mètres avant que le signal s'interrompe.
Notre homme était nerveux et mort de peur. Mon collègue m'a raconté qu'il avait demandé de l'aide. Supposez qu'il ait été au courant de la présence d'une bombe dans sa poitrine. Que d'une façon ou d'une autre, il savait que s'il ne remettait pas cette lettre pile à 17h02, la bombe exploserait.
Un pacemaker transformé en bombe miniature. Si tel était le cas, Charcot imaginait le supplice de l'inconnu, sa terreur. Avec une telle menace au fond de la poitrine, l'ange du futur aurait pu le contraindre à commettre des actes d'une gravité tout autre. Mais il avait choisi de lui faire remettre une lettre qu'il aurait pu envoyer lui-même par la poste. Et il avait éliminé le porteur devant leur maison. Un acte gratuit, une démonstration de force. Charcot avait beau se creuser la tête, il ne comprenait pas par quel lien la victime des bois pouvait être reliée à tout cela.
« On sait comment cette bombe aurait été contrôlée ?» demanda Chapelier.
« Ça reste à définir. Normalement, l'engin porte un numéro de série. Mais seuls quelques chiffres ont réchappé des dégâts, ainsi qu'une partie du nom du fabricant. Car est-ce à quelque chose ?»«
C'est maigre. »
La maigreur, c'est la chair de notre métier.
L'allée se rétrécit. La végétation se resserra autour d'eux. Laetitia Chapelier s'arrêta.
On y est, je dirais à une vingtaine de mètres près. C'est dans ce coin-là que ça s'est passé.
Charcot traversa la pelouse, se glissant entre les arbres jusqu'à une haie longeant un trottoir rue de la montagne de l'Espérou.
Facile de l'emmener ici. De traverser la haie et de l'embarquer dans un véhicule.
Avec les immeubles juste en face?
Les arbres, l'obscurité, la pluie. Il a dû agir en combien? 20 secondes. Vous ouvrez la portière côté parc, vous fourrez la fille à l'intérieur. Pour peu que ce soit une camionnette, personne n'y voit rien. Ce genre d'acte passe davantage inaperçu dans une grande ville qu'à la campagne, où n'importe quel véhicule étranger est suspect. Ici, les Parisiens regardent leurs pieds.
Il alla sur le trottoir d'en face, observa les environs sur la droite et la gauche, et revint en courant.
Le kidnappeur avait parfaitement planifié son rapt. Il savait que la jeune femme courait ici le dimanche à la même heure. Il connaissait son parcours et a choisi le meilleur endroit pour agir. Pas de lampadaire, pas de caméra de surveillance. Une météo pourrie, il était là dans les arbres, et il a jailli.
Charcot réfléchit. L'ange du futur avait analysé les photos publiées par sa proie. Facile de connaître ses habitudes, il se cachait dans la masse de ses contacts, sans doute sous un faux profil, mais il y était. Laetitia scruta les alentours.
Maintenant qu'on est là, que fait-on?
On fouine. Il y a forcément quelque chose pour nous.
Ils retournèrent dans l'allée.
Charcot demanda à Laetitia d'afficher la dernière photo prise par la caméra de Floise, celle où l'on apercevait le masque blanc.
« Il faut retrouver cet endroit précis. C'était côté gauche et elle allait dans cette direction. »
Tout en progressant sous la lueur de leur lampe, ils observèrent la forme des arbres, des branches. Charcot sentait le sel de l'excitation sur ses lèvres. Il était bien, ici, à fouiller, à vivre l'enquête sur le terrain. Talonné par Laetitia, il s'engagea dans la végétation lorsqu'il reconnut à peu près l'endroit où le kidnappeur s'était dissimulé à proximité d'un gros tronc. Il fit le tour de l'arbre. Dénicherait-il un message gravé dans l'écorce, un indice au sol? Laetitia s'était éloignée, son parapluie abandonné contre un arbre. Soudain, elle se baissa et s'apprêta à ramasser un objet.
« N'y touchez pas !»
Le flic se précipita. Un sachet en plastique zippé reposait au pied d'un tronc, hors de vue du chemin. Après avoir enfilé une paire de gants, Charcot le souleva entre le pouce et l'index. Face à lui, les yeux enflammés de Laetitia se troublèrent à travers l'opacité du plastique. À l'intérieur du sac, le même genre d'enveloppe beige que celle remise par l'inconnu au pacemaker.